sur Sois Mère et Tais-toi, le podcast qui dégomme les idées reçues et les injonctions sur la vie de maman. Je m'appelle Adèle, je suis moi-même maman de 4 enfants et je suis aussi coach des mamans surchargées, c'est-à-dire que je les aide à alléger leur quotidien, faire de la place dans leur agenda et mettre plus de fun dans leur vie. Toutes les semaines, je publie un épisode avec un invité ou en solo dans lequel je te partage toutes mes connaissances de coach, mais aussi ma vie de maman. Avec ce podcast, je veux t'aider à comprendre ce qui surcharge ton agenda, ce qui compte pour toi, ce qui te donne l'impression de courir sans arrêt, sans jamais réussir à te poser ou à même prendre du temps pour toi. Et je te partage les clés pour transformer ta vie comme j'ai transformé la mienne, celle de ma famille et celle de mes clientes. Tu peux me retrouver sur Instagram, à Adèle Saint-Gier, mais aussi sur Telegram, c'est mon nouveau chouchou. Pour avoir mon actu toute fraîche, connaître mes programmes d'accompagnement ou juste entrer dans mon quotidien de maman, mais aussi de femme, d'amis, de sportive, de pédagogue et de tous les sujets qui me passionnent et qui méritent tous une place dans ma vie. Bonne écoute! Aujourd'hui, je te propose de parler d'un sujet délicat et important, c'est le burn-out parental. Personnellement, je suis passée par là il y a 3 ans et finalement, j'ai mis ces 3 années à la fois à l'identifier mais aussi à l'accepter. Et du coup, je me suis posé la question de pourquoi c'était si difficile à reconnaître, même et surtout finalement quand on est en plein dedans. Comment l'identifier, le prévenir et surtout en sortir ? Pour parler de ce sujet, j'ai donc invité Marie Laviolette qui est coach parentale, notamment parce que j'aime beaucoup son approche à la fois très pédagogique et très bienveillante. Je te laisse donc en notre compagnie et je te souhaite une très bonne écoute.
Comment vas-tu Marie ?
Ah bah génial, ça va et toi ?
Bah bien, je te remercie, je suis hyper contente que tu aies accepté mon invitation. Trop contente de partager ce moment avec toi.
De même, plaisir partagé.
Trop bien. Est-ce que du coup, pour commencer, avant que je raconte comment je t'ai rencontrée, tu veux bien te présenter ?
Bien sûr. Là, du coup, je suis Marie. Je suis coach parentale et éducatrice en sexualité positive et inclusive. Et j'anime, je suis derrière le compte Instagram Parentalidée.
Super. Moi, effectivement, c'est via une pub d'Instagram d'ailleurs que je t'ai découverte. Et j'ai beaucoup aimé d'emblée le format que tu utilises quasiment systématiquement, c'est-à-dire des reels pédagogiques avec plein d'infos dessus. C'est court, c'est très condensé et en même temps, tu as plein d'infos. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Et ensuite, du coup, je suis allée sur ton site, j'ai creusé un peu plus et j'ai vu que tu étais spécialisée dans la relation parent-enfant. Et moi, justement, la relation, c'est précisément ce qui m'a amenée à travailler sur moi, sur ma charge mentale, sur ma façon d'élever mes enfants aussi. C'est-à-dire que j'ai pris conscience un peu brutalement que la vie était définie et que j'avais plus trop envie de continuer à la vivre en mode pilote automatique, parce que j'ai passé quelques années quand même comme ça. J'ai vu qu'un de tes axes d'accompagnement, c'était le burn-out parental. Et j'aurais aimé que tu nous expliques le burn-out parental, quels sont les signes ? Qu'est-ce que c'est, ce burn-out ?
Oui. Alors, les signes du burn-out parental, tu en as essentiellement 4. Le premier, ça va être l'épuisement du parent. C'est un parent qui se réveille et même s'il a dormi, il commence la journée épuisé, fatigué, donc grosse fatigue. Il y a ensuite la distanciation émotionnelle. Donc, surtout en présence de nos enfants, enfin de tes enfants, tu as l'impression de ne pas être là, dans le ici et maintenant, mais à chercher à fuir, donc en étant beaucoup sur ton téléphone ou en ayant l'excuse d'être occupé par plein de choses, la cuisine, le boulot, etc. Le troisième signe, c'est la perte de plaisir en famille, essentiellement. C'est-à-dire que même si tu sais évidemment que tu aimes ta famille, que tu aimes tes enfants, tu ressens plus autant de joie, de motivation dans les moments qui sont passés ensemble. Tu peux regarder ta montre en te demandant combien de temps il reste avant que les enfants soient couchés, et même dans certains cas, retrouver de la motivation une fois qu'ils sont couchés, alors que tu avais passé la journée à te dire que tu étais fatigué et que finalement tu l'es plus tant que ça quand les enfants ne sont plus dans le paysage.
C'est tellement ça.
Et le dernier signe, ah oui, ça te parle ?
Ouais, grave.
Le dernier signe, c'est le contraste en fait entre le parent que tu veux être, que tu as imaginé être et le parent que tu es au quotidien. Donc, tu vas te trouver moins patiente, tu vas avoir des réactions plus violentes, des mots désagréables, etc. Et ce sera vraiment un comportement qui est éloigné de ce que tu aimerais vraiment faire. Le burn-out parental, c'est ces quatre signes-là essentiellement.
Ouais, alors quand tu me le racontes, j'ai vraiment, je fais le flashback et je me dis oh mon Dieu, mais c'était vraiment ça, parce que au départ, c'est pas que j'ai un peu hésité, mais moi j'ai l'impression que quand t'as le nez dedans, c'est difficile de se rendre compte que t'es en train de faire un burn-out. Et maintenant, quand je vois mes amis, mes clientes, j'arrive déjà mieux à le voir. Mais tu vois, le fait de quand tu me redonnes ces quatre signes-là. Notamment le troisième où tu te dis « Ah, oh, furie, quand est-ce qu'on se couche ?» Et puis quand on se couche, mais en fait, la journée est passée, t'as pas eu le temps de la voir, tu te lèves, t'es cramé alors que t'as dormi quand même raisonnablement. Enfin bref, est-ce que c'est... Du coup, ma deuxième question, c'était ça, c'est est-ce que c'est facile de se rendre compte tout seul qu'on est en train de faire un burn-out ou qu'on est proche ou qu'il y a des signes avant-coureurs ? Comment on fait pour sortir le nez du guidon, alors, en fait.
Et oui, je pense que c'est difficile. Excuse-moi, je recommence. Non, je pense que c'est difficile pour les personnes qui sont proches du burn-out ou encore pire, déjà en burn-out, d'en avoir conscience. Tu peux même recevoir des remarques de tes proches ou des gens qui te disent « Attention, t'en fais beaucoup, repose-toi » ou « Tu te ressembles plus ». Mais pour les personnes déjà en burn-out, en fait, c'est difficilement accessible ce genre de remarques. Ouais. Surtout, la grande différence entre le burn-out parental et le burn-out professionnel, c'est que souvent les parents y mettent beaucoup plus de temps à aller toucher le fond du burn-out parental. Parce qu'en fait, biologiquement, même si tu prends plus aucun plaisir dans la relation, tu es programmé pour prendre soin de tes enfants et donc pour garder un minimum de jus. Ils dépendent de toi et souvent les parents en burn-out parental, ils ont cette croyance, ou c'est aussi une réalité, hein, qu'ils n'ont pas réellement d'alternative ou de relais pour craquer et pour que vraiment la machine, elle s'arrête. Donc si dans le burn-out professionnel, le risque, c'est plutôt que le corps lâche, que tu n'arrives plus à te lever le matin, etc. Dans le burn-out parental, bien sûr, ça peut arriver aussi, mais le risque, ça va plutôt de devenir négligent ou de devenir violent avec tes enfants. C'est ça, un des gros risques du burn-out parental.
Et du coup, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de nous en rendre compte, enfin, de nous rendre compte des signes avant-coureurs, du avant qu'on soit complètement dans le jus, puisque finalement, on n'y arrive même pas, pas complètement.
Du coup, ta question, ce serait comment est-ce qu'on peut prévenir en fait le burn-out ? Est-ce que
ouais, en fait, c'est ça, c'est ma troisième question. Ouais, comment on peut le prévenir ? Comment on peut l'éviter, selon toi ?
Alors, c'est pas forcément infaillible parce que les racines du burn-out parental, elles peuvent s'inscrire très très loin en nous. Mais je pense qu'il y a des moyens de le faire et que parmi ces moyens-là, il y a avant tout mettre de la conscience sur la difficulté du rôle de parent. Surtout en 2023. Je t'explique un peu, je développe un peu. On vit dans une époque où les parents, ils ont beaucoup moins de relais qu'avant. Les grands-parents, ils habitent plus loin, ou parfois ils sont plus âgés parce qu'on a des enfants plus tard. Les modes de garde, ils sont souvent très chers, on travaille beaucoup, etc., etc. On vit à une époque où la loi nous interdit officiellement les violences éducatives ordinaires, mais il manque encore pas mal d'infos sur comment on fait pour accompagner les enfants. Les enfants, ils ont une énergie de dingue, ils ont des besoins de dingue, ils gèrent pas encore leurs émotions comme les adultes, donc ça fait un boulot énorme pour les parents. On vit aussi à une période où il y a des injonctions super élevées. Les deux parents, ils doivent bosser de manière équitable, ils doivent se répartir les tâches, ils doivent rester des hommes, rester des femmes, rester des amis, rester socialement actifs, etc. Donc les standards en fait de vie sont quand même assez irréalistes quand on est parent, et d'autant plus parents de jeunes enfants ou de parents d'adolescents, qui sont deux périodes très 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 exigeantes. Et les injonctions, elles s'arrêtent pas là, c'est que tu as le cliché du parent parfait qui ferait telle ou telle chose avec ses enfants, et donc là, la liste, elle est longue, c'est l'allaitement, c'est les repas bio, c'est les activités éducatives à gogo, etc. Donc, je pense que prévenir le burn-out, c'est déjà mettre de la conscience sur ces difficultés-là et le niveau de stress que les parents y vivent. Et ensuite, c'est de se dire, bah, face à ce stress-là, quelles ressources je mets ? Et donc, du coup, pour prévenir le burn-out, c'est de se demander en amont, qui m'écoute moi, parent, quand ça n'ira pas ou quand ça va pas ? Qu'est-ce que j'arrive à dire quand c'est... Est-ce que j'arrive à dire quand c'est trop pour moi ? Est-ce que j'arrive à sentir mes limites ? Est-ce que dans ma parentalité, j'arrive à prioriser ce qui est vraiment, vraiment important pour moi, non négociable, et ce qui l'est moins, ce qui me donne de la ressource et ce qui m'en enlève trop, en fait ? Quels sont mes standards de parentalité ? Comment je les ai déterminés ? Est-ce qu'ils sont justes ? Est-ce qu'ils sont accordés avec mon principe de réalité, en fait, avec les conditions dans lesquelles je vis, dans lesquelles j'évolue ? Et se dire, se répéter, qu'en tant que parent, on compte dans la balance. Donc, je te donnais l'exemple de préparer tous les plats à la maison. Si tu penses que c'est hyper important pour toi de faire que des repas maison, mais que tu te rends compte que ça t'enlève du temps pour récupérer de l'énergie de ta semaine de boulot ou pour tout simplement passer du temps à jouer avec tes enfants, du temps de qualité, peut-être qu'il faut reprioriser les choses. L'enfant, son besoin fondamental, c'est du temps avec un parent qui va le mieux possible. Donc, ta relation parent-enfant, la clé et la priorité, ça va être ce temps de qualité. Tout ce qui vient après, si tu peux, tant mieux. Mais est vraiment cette image de la balance, ça peut aider à prévenir le burn-out. En synthèse, parce que là j'ai beaucoup parlé, les deux façons de prévenir le burn-out, c'est reconnaître que être parent c'est dur, même si les réseaux sociaux peuvent te faire croire le contraire, et c'est de gérer en fait le stress inhérent à la parentalité. En commençant, moi j'aime beaucoup cette image de la balance pour le burn-out. À chaque fois que tu fais un choix, tu mets dans ta balance ton choix et en face ce que ça va te coûter en termes d'énergie, de temps, d'argent, de stress. Et quand c'est déficitaire, quand ta balance elle est déficitaire, il faut repenser le truc pour faire autrement et choisir ses choix.
Ouais, c'est une belle image, effectivement. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, tu vois, c'est un des exemples que j'utilise souvent. C'est par exemple, je me mettais une pression de malade pour que ma maison soit rangée tout le temps. Alors que fondamentalement, moi, le rangement, c'est pas une de mes priorités. Et je mettais aussi énormément de pression à mes enfants pour ranger leur chambre tout le temps. Et clairement, là, pour le coup, la balance, elle était hyper déficitaire. C'est-à-dire qu'on passait un temps fou sur cet item du rangement, que ce soit moi ou eux, et moi à leur imposer ça, alors que j'y trouvais aucun plaisir.
Ouais.
Et ça, quand j'ai réalisé ça... Ouais. Bah, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais pourquoi ? Alors, celui qui m'a fait réaliser ça, c'est mon grand. Un jour où je lui ai dit pour la énième fois, mais bon sang, Vivien, range ta chambre, et qui m'a dit, pourquoi ? C'est une très bonne question. Je ne savais pas quoi lui répondre, parce qu'il me dit, mais c'est ma chambre, t'es pas dedans. Bah oui, mais c'est plus joli, c'est plus agréable. Oui, mais moi, je m'en fiche. Et j'étais là, mais j'ai pas d'argument, en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça ? À part pour paraître bien aux yeux du monde, aux yeux éventuellement de ce que tu dis, le parent parfait, aux yeux d'Instagram. Pourquoi je fais ça fondamentalement pour moi ? Ben en fait non quoi. Et ça a fait partie de mes premières prises de conscience et c'est après que j'ai dit je vais peut-être aller voir tous les autres items, toutes les autres injonctions que je me suis collées, voir s'il y en a pas d'autres que je pourrais éliminer et comme ça j'en ai éliminé effectivement beaucoup beaucoup et c'est là que j'ai pu commencer à souffler et à me dire mais pourquoi j'ai fait ça. Donc effectivement pour moi c'était un bon exemple. Après je peux comprendre qu'on ait envie de vivre dans un environnement rangé et que ça puisse pour certaines personnes être indispensable, mais clairement pour moi ça l'était pas et je me disais mais pourquoi je fais ça, vraiment je comprends pas. Et donc ouais, je suis d'accord avec toi.
Ce qui est intéressant, c'est le mécanisme. Ce qui est intéressant, pardon, je t'ai coupé, c'est le mécanisme que tu as mis en place de te rendre compte que ce sujet-là, tu peux le remplacer par n'importe quel autre, mais ce sujet-là était finalement avait pas autant de sens que ça pour toi et pour vous et pour l'équilibre de la famille. Donc c'est en ça que c'est un super exemple dans le mécanisme que tu as suivi, le chemin que tu as suivi.
Oui, pour rééquilibrer la balance que tu disais.
Oui, et t'enlever de la pression.
Ouais, exactement. Et c'est vrai que désacraliser un peu l'image du parent parfait et la tailler un petit peu régulièrement, je pense que c'est un travail qu'on fait beaucoup, hein, mais c'est effectivement indispensable pour s'enlever de la pression et des injonctions, parce que moi j'en étais là, j'en étais à tout vouloir faire parfaitement, Et comme tu dis, j'avais plus de temps de qualité pour mes enfants. J'étais absolument pas la maman que je voulais être parce que je me levais aux aurores, je voulais tout, que tout soit parfait, que tout soit rangé, que tout soit nickel, que les repas soient bio, faits maison. Sauf qu'à un moment donné, en fait, c'est plus possible, quoi. J'avais le droit dans le mur.
Le parent parfait, il a pas d'enfant.
J'adore cette image.
C'est être parfaitement imparfait et se dire que la priorité, c'est du lien et de la liberté. Donc, du temps ensemble et de la liberté à repousser certaines pressions et certaines injonctions.
Et ça, c'est vraiment compliqué de repousser les injonctions. En fait, de faire le tri, moi, j'ai trouvé entre ce qui était de l'injonction et ce qui était de mes valeurs propres et ce qui était important pour moi, ça m'a demandé pas mal de travail. Alors, c'est du travail que je transmets aussi à mes clientes, hein, mais je trouve que c'est vraiment compliqué au départ. T'as l'impression d'avoir que des je dois dans ta liste. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et puis après, quand t'élimines, tu te rends compte, mais pourquoi? Mais quelle idée? Quelles sont les pistes pour en sortir? On en a parlé un petit peu, tu m'as dit, donc rééquilibrer la balance.
Oui, alors au-delà de ça, et t'en as très bien parlé, je pense qu'une fois que t'es en burn-out, parce que du coup pour en sortir, il faut y être rentré.
C'est ça.
Je pense que le besoin premier, c'est d'être accompagné en fait, de plus être seul, parce que il y a vraiment ce besoin de sortir de la tête. Tu vois, tu disais dans ma tête, j'ai mes phrases, je dois, je dois, je dois. En fait, quand t'es en burn-out, pour en sortir, t'as besoin d'en parler, de te faire aider. Sortir du burn-out seul, c'est presque une utopie, j'ai envie de dire. Beaucoup de personnes peuvent la garder, cette utopie, hein, avant de toucher le fond. Mais ce que permet l'accompagnement, c'est vraiment de mettre des mots sur une vraie souffrance. Les parents en burn-out, ils souffrent. C'est vraiment à l'intérieur d'eux, il y a vraiment un truc. Ils savent que c'est pas OK, mais ils savent pas comment faire autrement. Ils ont besoin d'ordonner et de rendre cohérent l'ensemble des symptômes que le burn-out parental a mis dans leur vie. Parce que quand tu es en burn-out, tu peux soit manquer de sommeil, faire des insomnies, soit au contraire avoir un besoin encore plus important de dormir, donc faire de l'hypersomnie. Tu peux perdre du poids, tu peux en prendre, tu peux vraiment devenir violent avec tes enfants comme tu n'as pas envie de l'être. Donc il y a vraiment beaucoup de souffrance. T'as besoin de comprendre comment communiquer cette souffrance à ton entourage, parce que souvent t'as du mal il peut y avoir de la honte, de la culpabilité autour de tout ça, de te sentir moins seul aussi et de mieux te comprendre, de mieux être au contact de tes besoins en fait pour pouvoir ensuite les affirmer et que l'équilibre soit là pour tout le monde, les parents, les enfants, etc. Dans le burn-out, t'es déconnecté à tes besoins, t'es en mode machine, mais quand on s'en rend compte, ce dont t'as besoin, c'est de soutien, d'être entouré et d'aller regarder sous un nouvel angle la manière dont tu es structuré, en fait.
Ouais, et puis c'est vrai que des fois, quand tu te plains à ton entourage, qui n'est pas forcément formé à ça, t'as des réactions qui sont bienveillante. Enfin, le fond est pour t'aider, mais c'est lâche prise, fais-en moins. Et t'es là, mais je sais pas comment faire moi pour lâcher prise. Et puis j'ai l'impression que si je lâche prise, je vais me casser la gueule, quoi. Exactement.
Et c'est des nouvelles injonctions dites comme ça aussi. Donc, du coup, c'est compliqué, ouais.
Ouais, c'est compliqué d'aller. Effectivement, moi, je m'en suis pas sortie toute seule non plus. Hein. J'ai fait du coaching et c'est ça qui m'a aidée déjà à prendre conscience que j'étais dedans et à en sortir petit à petit. Et je suis d'accord avec toi, quand t'es pas accompagnée par quelqu'un d'un peu finalement extérieur à ton problème, de professionnel aussi, en fait, c'est déjà compliqué de voir que t'es là. Et alors après, par quel bout le prendre, comment en sortir, par quoi commencer? Ça, au départ, tu te dis, mais comment je vais faire, en fait? Maintenant que je suis là, que je suis complètement noyée, il faut m'aider, là. Je sais pas comment en sortir. Moi, je suis malheureusement aussi convaincue que le burn-out parental, tu peux pas t'en sortir tout seul. Et l'entourage a beau être hyper bienveillant, a beau vouloir t'aider, surtout s'il est pas passé par là. Ça va être plus des problèmes d'incompréhension et des nouvelles injonctions que tu vas recevoir que des conseils intéressants et de l'empathie. Vraiment, t'as souvent des gens qui te proposent des solutions pour que t'en sortes vite, et sauf que au départ, ce que t'as besoin, c'est juste de déposer ton gros paquet et de dire, mais je vais pas bien là.
Oui, je suis d'accord avec ça.
J'aurais aimé aussi qu'on parle un petit peu de la culpabilité et de l'estime de soi, parce que dans le burn-out, moi, je me sentais comme une merde, en fait. T'as une estime de soi de toi à peu près au ras des pâquerettes. Tu te dis, mais j'y arrive pas. Et plus j'en fais, moins j'y arrive. Donc, je suis vraiment nulle. J'ai un problème d'organisation. Moi, je me sentais, comme on entend souvent, tu sais, une maman en carton. Depuis j'ai fait beaucoup de progrès et j'ai appris à être parfaitement imparfaite et à me prioriser d'abord. J'ai compris que si j'allais pas bien, j'allais pas pouvoir m'occuper de ma famille. Et quand je vais diffuser cet épisode, je reviendrai d'un week-end toute seule avec moi-même. C'est le week-end prochain.
Génial.
Je vais laisser, ouais, ça va être un bon moment, je pense. Je vais laisser homme et enfant tout seul 2 jours sans moi. Alors au départ, c'était une décision que j'avais prise surtout pour bosser, pour être vraiment focus sur mon entreprise et sur mon travail. Après coup, je me suis rendu compte que c'était peut-être aussi une façon de légitimer un peu ce besoin de sas, en fait, de décompression. Ça n'a pas été forcément facile à accepter par mon amoureux qui m'a dit mais en gros, pourquoi tu nous abandonnes? Ben juste, j'ai besoin d'une pause, tu vois, j'ai besoin de vous laisser tout seul, gérer, voir comment vous vous débrouillez tout seul, et moi d'être posée. En plus, je vais aller dans un endroit où j'ai pas de réseau, tu vois, pas de wifi, pas de réseau, pas rien, la campagne. J'ai besoin vraiment d'être toute seule pour pouvoir revenir ressourcée et pour pouvoir m'occuper de tout le monde. Donc moi, la gestion de la culpabilité, c'est des conseils c'est des choses que je travaille beaucoup avec mes clientes aussi, avec mes abonnés. Est-ce que tu as des conseils à toi à donner pour temporiser au maximum cette culpabilité qui peut être parentale et qui est aussi, même si j'aime pas trop genrer, qui est quand même souvent maternelle. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'elle est plus souvent maternelle que paternelle.
Alors là, tout ce que tu viens de me raconter, ça me donne l'image du mobile. Tu sais, les mobiles que tu mets au-dessus des berceaux des enfants, les petits jeux qui tournent. En fait, pour moi, la famille, c'est comme un mobile. Donc, chaque membre de la famille représente un élément du mobile. Et quand tu en bouges un, il y a tout le monde qui va bouger aussi.
Ah.
Et donc, toi, quand tu vas prendre ton week-end, pour toi, tu vas te ressourcer. Et tu ne vas pas le faire que pour toi. Quand la source d'eau, elle se remplit pour faire boire tout le monde, si j'utilise une autre image. Donc, quand tu vas revenir, tu vas être beaucoup plus reposé. Tu parles de taf, donc tu vas avoir avancé sur ton boulot. Ton esprit va être plus disponible. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas être gonflé à bloc. Et le modèle que tu vas donner à tes enfants, comme à ton amoureux d'ailleurs, c'est qu'en prenant du temps pour toi, tu n'es pas que maman, il y a des choses qui te motivent à côté, tu ne dépends pas complètement d'eux. Et ça, alors évidemment, quand les enfants sont tout petits, c'est l'inverse qu'il faut faire, mais plus les enfants vont grandir, plus ils ont aussi besoin de voir ça, que le parent n'est pas que à leur disposition, pas que là pour la famille, qu'il y a aussi d'autres espaces pour respirer, pour s'épanouir et pour retrouver son identité. Tu montres aussi que maman, quand elle part, elle revient, qu'elle fait des choses qu'elle aime, qui lui font du bien, etc. Et finalement, du coup, c'est super incohérent de prendre soin de quelqu'un à fond sans prendre soin de soi aussi. Et après, ce que je disais avant aussi, c'est que c'est une question d'équilibre et de balance. Donc tu dis ton amoureux il l'a pas bien pris. C'est intéressant de lui demander ce qui est difficile pour lui dans le choix que t'as fait de partir un week-end. Est-ce que c'est parce que lui il manque de ressources en ton absence? Est-ce que c'est parce que lui aussi il a besoin de temps pour lui, il n'ose pas s'en donner? Et ensuite une fois qu'il a exprimé sa difficulté, vous pouvez ensemble regarder comment vous co-construisez la solution. Est-ce que chacun prend un week-end pour lui par an? Est-ce que c'est un par semestre? Est-ce que c'est sous un format différent? Ça peut être aussi une soirée dans la semaine, etc. La culpabilité que tu évoques aussi, elle peut être utile. Elle peut être utile si tu peux changer les choses. Mais si tu peux rien changer sur ce qui te rend coupable, et coupable de quoi, c'est une bonne question aussi, c'est ce qu'on appelle la culpabilité toxique que tu dois bien maîtriser aussi avec tes clientes ou tes clients. Et du coup, là, ce serait intéressant, c'est tu culpabilises de prendre du temps pour toi, interroge le temps pour toi. Depuis combien de temps ça t'est pas arrivé? Sur une échelle de 1 à 10, combien t'en as besoin? Quels bénéfices ça va avoir si on met dans la balance les bénéfices versus les désavantages? Le souci de la culpabilité, ça fait un lien avec tes questions d'avant. La culpabilité culpabilité toxique, pardon, c'est qu'elle peut vraiment venir de loin. Tu vois, tes phrases de « je dois »,« je si »,« je là »,« je il faudrait », en fait, derrière cette culpabilité-là, tu as plein de croyances ou d'une manière de te voir toi qui est pas ajustée. Donc, ça peut être enraciné dans la peur du jugement ou du rejet. Si je reprends ton exemple, c'est genre, j'ai peur que mon amoureux il me rejette si je prends du temps pour moi. Mm-hmm. Ça peut être un excès de don de soi, c'est-à-dire penser que les autres, ils sont plus importants que moi. Donc, c'est moins important que je prenne du temps pour moi, il faut que je sois là pour les autres tout le temps. C'est une notion qu'on a déjà évoquée aussi, le perfectionnisme. Non, mais il ne pourra pas y arriver sans moi, je ne vais pas laisser gérer les enfants, ce n'est pas possible. Ou ça peut être une comparaison avec l'image du parent parfait. Mais non, mais le parent parfait ne part jamais en week-end. Il est toujours heureux de passer ses week-ends et son temps libre avec sa famille. On est vraiment sur quelque chose qui n'est pas non plus très, très, très réaliste. Ou alors, ça peut être aussi un sentiment de solitude. Non, non, je ne peux pas partir. Je suis la seule à pouvoir m'en occuper, etc., etc. Donc, il y a plein de choses, en fait, derrière la culpabilité toxique qui viennent de très, très loin, de la manière dont on s'est construit et de la structure qu'on a. Et si on fait autrement, on sait pas vraiment comment faire, en fait. Donc, voilà, ces croyances, elles nous limitent dans l'affirmation d'un besoin qui est totalement légitime. Ça va être top, ton week-end.
Ouais, j'adore. Bah, c'est pour ça que je voulais absolument faire un vlog pour bien montrer à toutes mes abonnées, à toutes mes clientes que non seulement c'est possible, mais en plus c'est super. Et je trouve hyper intéressant ton analyse de la culpabilité toxique parce que c'est aussi souvent un argument que j'utilise, la culpabilité. Ça peut être hyper intéressant pour montrer que en fait elle a un intérêt, la culpabilité, c'est de se dire là ce que tu fais c'est peut-être pas en accord avec tes valeurs. Et du coup, pour dissocier la culpabilité toxique de la culpabilité qui va servir à quelque chose, moi je fais ça, je vais vérifier si vraiment c'est en incompatibilité avec mes valeurs ou pas, sinon c'est juste de la culpabilité toxique et je peux la laisser courir. Si je me rends compte que cette culpabilité sert à me dire ah bah là ce que tu fais c'est pas en accord, à ce moment-là ça vaut le coup d'aller changer, d'aller voir ce qui se passe et d'aller réajuster mon comportement. Et j'aime bien aussi ta notion de
juste.
Oui, vas-y.
Je rajouterais juste que quand tu vas checker avec tes valeurs, check que tes valeurs, ce ne soient pas des standards inatteignables.
Ouais. Oui, que ce ne soient pas des injonctions, ouais, ça c'est sûr.
Et que ce soit réaliste. Ouais. Et que ce soit réaliste.
Ouais, ça c'est vrai que c'est compliqué. Alors maintenant que j'ai fait ce travail, pour moi c'est plus intuitif, c'est plus facile. Oui. Mais effectivement, pour les gens qui nous écoutent, il faut faire hyper gaffe à ça, ces fameux standards inatteignables ou ces injonctions. Malheureusement, ils ont tendance à te mettre une pression d'hyper-exigence de malade. Et moi j'aime bien aussi utiliser la notion d'exemple et de pédagogie, et je dis souvent ça à mes clientes. Imagine l'exemple que tu donnes à tes enfants d'une maman qui prend soin d'elle, qui prend soin de son travail, de ses ressources. Est-ce que tu voudrais donner l'exemple à ton enfant de quelqu'un qui se noie sous les responsabilités, qui fait tout pour les autres et qui prend pas du tout soin de soi? Et en général, c'est non.
Et oui, bien sûr. Oui, c'est clair, mais c'est bon à réentendre et c'est bon de le voir chez les autres avant de le faire chez nous. C'est parfois plus simple. On a besoin d'autorisation, on a besoin de ces permissions-là qu'on nous a pas forcément données, qu'on n'a pas forcément données aux générations d'avant et qui pourtant sont tellement importantes.
Ouais, ça commence un petit peu à bouger, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu timide et c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à cette histoire de problème de génération, mais l'image du baron parfait, elle est peut-être aussi un peu générationnelle, c'est-à-dire que notre entourage de vie a évolué, comme tu disais, parce que on est plus loin des grands-parents, parce que on n'a pas les mêmes conditions de vie que nos parents, et donc on peut pas se demander la même chose, en fait.
On ne peut pas se demander la même chose, il n'y a pas le même soutien. Tu sais, on dit souvent cette phrase, il faut un village pour élever un enfant. Ouais. Mais si ton village, il est pas là, il faut vraiment l'imaginer, il faut vraiment le créer parfois de toutes pièces. Donc c'est parfois un petit peu difficile d'avoir du relais, ça met de la pression. Et les générations d'avant, elles avaient à la fois plus d'aide, et à la fois moins d'aide, parce que tu vois, il y avait quand même les violences éducatives ordinaires dans les générations d'avant, c'était leur structure, c'était aussi comme ça que les enfants filaient droit, on prenait moins de temps à regarder le besoin derrière le comportement, et c'était aussi un petit peu comme ça qu'ils s'en sortaient. aujourd'hui, on a l'information et on se rend vraiment compte que c'est pas la meilleure manière de le faire. Mais du coup, il faut vraiment qu'on puisse mettre la ressource en face. Comment on fait autrement?
C'est ça.
Parce et ça alimente pas mal de burn-out si on oublie de parler du comment.
C'est ça. C'est-à-dire que si tu remplis pas, c'est ce que je dis souvent. Il y a aussi, moi j'ai souvent des questions du genre, comment tu fais pour mettre en place l'éducation bienveillante? Est-ce que c'est pas un peu du laxisme? Comment tu fais pour trouver la ressource et pour trouver l'énergie? Alors déjà, la différence entre l'éducation bienveillante et le laxisme, pour moi, elle est très claire. Je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast d'ailleurs là-dessus aussi. Et ensuite, comment je fais pour trouver la ressource? Il faut d'abord que je remplisse mes réservoirs. Si je suis complètement à sec, que j'ai pas dormi, que je me suis pas occupée de moi, c'est sûr que trouver l'énergie d'être plus bienveillante dans mon éducation, de trouver le moyen d'expliquer à mes enfants, ça va être beaucoup plus dur que si j'ai pu remplir tous mes réservoirs, que j'ai bien dormi, que je m'occupe de moi, que je fais du sport, que c'est la base en fait.
Et c'est en fait ce que tu dis, c'est des bases d'exploration qui sont importantes parce que le parent aujourd'hui, c'est un véritable, moi je l'appelle souvent l'enquêteur, et il fait des grandes enquêtes par rapport aux besoins de ses enfants, par rapport à ce qu'il peut faire, etc. Et par rapport à ce qu'il a envie de faire différemment, par rapport le parent, ce qu'il a envie de faire différemment par rapport à l'éducation qu'il a eue. Et pour pouvoir explorer des nouvelles pistes et faire différemment de ce qu'il a reçu, il a besoin de ressources, il a besoin d'énergie, il a besoin de sommeil. Il a besoin d'aide bien souvent. Alors ça peut passer par des lectures, mais parfois ça suffit pas. Parfois il faut pouvoir en parler à quelqu'un. Et c'est là en fait que moi je trouve toute la passion dans mon travail. C'est pas forcément des accompagnements très longs, mais c'est vrai que l'humain et changer d'angle et regarder les choses différemment, ça marche mieux quand on le fait à plusieurs et quand on déconstruit un peu l'histoire qu'on a eue et notre propre éducation.
Ouais. Ça, c'est compliqué de déconstruire notre propre éducation. Il y a une espèce de... C'est un gros morceau, ouais. Moi, je le vois plus chez mon conjoint, finalement, que chez moi. Mais parce que moi, j'ai eu plusieurs éducations aussi. Donc, j'en ai eu trois types différents. Du coup, je pense que j'ai pu trier. Mais lui, j'ai l'impression que quand je lui propose une autre façon de faire, c'est comme si je lui demandais d'être infidèle à l'éducation qu'il a reçue et qu'il a finalement... validé dans le sens où ça a fait lui une très belle personne et ça c'est ok, je ne remets pas ça en question.
C'est le conflit de loyauté par rapport à ses propres parents qu'on garde très très longtemps à l'intérieur de nous parce que sinon ça nous ferait sentir aussi de quoi on a manqué, des besoins qui n'ont pas été écoutés et ça peut être très très douloureux. Donc il faut y aller au rythme du parent, si le parent a envie d'y aller et le faire encore une fois accompagné de la bonne personne. Donc ça peut être le conjoint, la conjointe, mais il faut que ce soit une personne qui nous ramène à suffisamment de sécurité pour sentir tout ce dont on a manqué, et parce que nous, on n'est pas des parents parfaits, mais les nôtres ne l'étaient pas non plus. Donc forcément, il y a des choses qui ont manqué, et pour faire différemment, il faut retrouver la sécurité et l'énergie d'explorer un chemin différent.
Ouais, c'est un sujet hyper, hyper vaste, on pourrait en parler pendant des heures.
C'est clair.
Moi, j'adore. Merci beaucoup, Marie, pour tous tes éclairages. Où est-ce qu'on peut te retrouver, à part sur le site, le compte Parentalidé?
Alors oui, effectivement, moi, j'ai mis pas mal d'énergie sur le compte Instagram, essentiellement, mais j'ai aussi mon site internet, marielaviolette.com. Donc, entre Instagram et mon compte internet, vous pouvez me contacter facilement. Et puis après, c'est en vrai, c'est dans mes consultes, c'est dans mes vidéos, c'est dans tout le contenu que je partage, avec grand, grand plaisir.
Dans tes programmes aussi. Oui. Et du coup, tu t'interviens en physique, mais aussi en visio. Pour les gens
alors,
qui sont
essentiellement
proches de
visio,
toi.
De plus en plus en visio. Ouais, plus en plus en visio maintenant. Ça me permet d'avoir des parents dans des régions où ils n'ont pas forcément accès au coaching parental, ou même des parents qui n'ont pas forcément le temps. On arrive à faire des séances en journée entre midi et deux, des séances le soir, etc. Donc essentiellement en visio, mais moi physiquement je suis entre Nantes et Paris, donc il y a aussi possibilité de se rencontrer. Il y a plusieurs formats, il y a les formats de coaching parentaux, mais il y a les ateliers et il y a les programmes de parents en ligne. Donc il y a plein de façons de se rencontrer. Si mon travail vous parle, surtout n'hésitez pas.
Ouais, moi je vous conseille vraiment d'aller voir déjà le compte Instagram Parentalité parce que je le trouve vraiment chouette. Tes reels ils sont frais, ils sont beaux, il y a un petit peu de musique, puis il y a plein d'infos en peu de temps et du coup tout de suite ça parle. Je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Moi je participe à un de tes ateliers, j'avoue que je l'ai pas encore commencé mais mais j'ai trop hâte. Il va falloir que je trouve le temps de m'y mettre et de finir par suivre. Et puis, on peut te retrouver aussi donc, sur le site. Je mettrai tout dans les notes de l'épisode si vous avez envie d'aller voir ce que fait Marie. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ?
Écoute, je pense qu'on a fait un bon apéro, des bonnes amuse-bouches. Pour pouvoir, quand les parents sont prêts, passer au plat principal après. J'espère que ça leur aura donné un peu d'épices et éclairé peut-être certaines situations qu'ils peuvent vivre. Donc peut-être juste un mot d'encouragement et me mettre en lien avec les parents qui seraient concernés par le burn-out parental ou l'épuisement parental. J'y suis passée aussi et je sais que c'est vraiment des moments où on n'est vraiment pas bien. Mais, mais il y a des solutions, il y a des raisons derrière. Donc gardez espoir, gardez la patate et ça va bien se passer.
C'est ça. Restez pas tout seul, faites-vous accompagner, faites-vous aider, contactez les bonnes personnes et restez pas dans cette spirale, dans cette roue du hamster qui est terrible et qui, moi, ça m'a donné l'impression de passer à côté de la vie, en fait. J'avais l'impression que pendant cette période-là, je ne vivais pas ma vie. Et c'est vraiment trop dommage parce que la vie est courte. Donc,
c'était ta stratégie à l'époque, mais c'est vrai qu'on peut retrouver du plaisir et du lien en débloquant 2-3 petits trucs.
Ouais, et ça c'est tellement important, le plaisir et le lien avec nos enfants qui grandissent vite et qui après risquent de quitter la maison. Moi j'ai mon grand qui a 17 ans, je me dis bientôt il va s'en aller.
Et le lien avec nous-mêmes aussi, non?
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on est complètement déconnecté quand on est en burn-out, malheureusement. Donc un petit message d'espoir, prenez surtout soin de vous et n'hésitez pas à aller chercher les bonnes personnes et les bonnes infos pour vous aider à sortir de là.
Exactement.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie.
Merci, Adèle.
Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter, commenter, mettre des cœurs et des étoiles, partager autour de toi. Tous les retours sont bienvenus pour m'aider à faire connaître ce podcast. Moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout n'oublie pas à quel point tu es merveilleuse.